beaucoup notre collègue néerlandaise qui, à mon avis, nous aura certainement fort développé les contrastes de cette nouvelle institution. C'est intéressant ce que vous dites sur la finalisation d'un dossier. Il y a plusieurs avocats dans la salle qui savent très bien que lorsqu'on gagne un dossier pour un requérant sur un vice de forme, on gagne souvent un premier round, mais si l'administration reprend la même chose avec une meilleure motivation, avec un meilleur souci d'examen du dossier, on ouvre souvent un dossier numéro 2. Je crois que les avocats qui sont présents dans la salle ont certainement tous eu cette même chose, et ça n'est certainement pas dans l'intérêt du requérant. Et là, le souci de finalisation, d'efficacité, autre chose, c'est certainement l'apport positif qu'on peut espérer, en tout cas, d'une institution pareille dans l'intérêt des justiciables. Les questions qu'on peut se poser sur le principe de la séparation des pouvoirs, vraiment, je crois, reste plus que sérieuse, et je crois qu'aussi bien Mme Maric que vous-même nous les avez confirmées d'une certaine manière. Voilà. Il nous reste 25 minutes. Je crois que si la salle a l'une ou l'autre question à poser à notre spécialiste, c'est le question time et c'est l'interro-surprise, quand même aussi. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Peut-être une toute petite question par rapport à votre exposé. Vous nous avez parlé de cette affaire avec le numéro de la porte d'entrée et de l'habitation qui a finalement été annulée après multiples ébats. On se posait la question, l'annulation c'était pour un vice de forme ou un vice de fond? Ça change beaucoup de choses, évidemment.
Vice de fond.
Vice de fond, ça, oui. D'où évidemment d'autres questions qui peuvent résonner. Très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite poser la question? Donc on va transformer quand même nos conseillers d'État, il y en a dans la salle au moins, en tout cas, soit en le fusionnant avec la Cour de cassation, si je comprends bien, ça risque d'être joli, ou bien en conseiller du gouvernement, hein, quand même. Voilà, est-ce que vous nous donnez votre intervenant?
Misschien mag ik dan een vraag stellen aan u. Ik zag u zo een beetje knikken toen ik begon over de rechter die mee gaat procederen, die mee gaat rechercheren. Toen ik dat geval van die uitkeringsfraude vertelde. Is dit een zorg die hier ook leeft, waar protesten tegen zijn of waar wat een van de redenen is om met enige zorg naar deze ontwikkeling te kijken? Of vinden jullie het allemaal prachtig idee?
C'est une des réformes qui propose le plus de controverses. Hein. notamment, donc il y a quand même eu un avis notamment de l'association des avocats, l'OBFG, chez nous, qui avait marqué de vives, pas réticences, hein, sauf erreur de ma part, mais enfin, de vives inquiétudes par rapport à la transformation du rôle du juge à cet égard. Mm. C'est pour ça que j'ai évoqué le crime de Bali notamment, mais pas seulement, je crois qu'à l'intérieur même du Conseil d'État, toute une série de magistrats se posent des questions, mais bon, ils ont un devoir de réserve, et donc je comprends qu'ils ne se soient pas... Je ne sais pas si quelqu'un souhaite avoir une autre réponse à notre collègue. Mais c'est Linde Bams,
je ne sais pas si je pose ma question en irlandais, ou bien est-ce que pour le public, enfin, je pose ma question en français, pour le public ou bien en irlandais.
Il devrait être inscrit dans un air d'âle.
Et je me suis dit que le bus, soms toch niet dan bizarre gevolgen, als ik dat bijvoorbeeld zou toepassen op iets wat de Raad van State heel vaak leidt tot niet de verklaring, namelijk de schending van de formele motiveringswet. De formele motiveringswet eist dat het motief in de akte zelf is opgenomen. Mm-hmm. Wanneer je als bestuur bij de Raad van State uitlegt, maar er zijn wel degelijk deugdelijke motieven, dat is misschien een beetje te kort in de bocht. Wat we in de akte hebben geschreven, maar we hebben die niet. Als je dan een bestuurlijke lust doet, dan stuur je het bestuur terug naar huis, moet de tekst worden herschreven, maar er wordt uiteindelijk niets anders geschreven dan wat bij de Raad van State al is aangevoerd als verder of meer omstandige uiteenzettende motieven. Ja. Waarom dan niet onmiddellijk toelaten dat de Raad van State zou zeggen, inderdaad, ook al staat in de akte niet de volledige motivering, wat u hier komt vertellen, volstaat voor mij het middel van schending van de formele motivering is ongegrond. Dat gaat nog veel sneller. Ja. Je hebt dus een bewust niet nodig en het eindresultaat is identiek hetzelfde.
Ja, in sommige gevallen gebeurt dat in Nederland ook. Dat dus de rechter zegt van ja, maar hier is toch eigenlijk mij niet duidelijk wat de redenen voor dit besluit zijn. Hè? Omdat dat zit hem dan vaak in dat er wel een motivering is, maar die is inconsequent, die is tegenstrijdig. En dan zegt de rechter van hoe kunt u nou dat zeggen als ook dat aan de hand is? En dan wordt dat uitgelegd ter zitting, hoe dat zit. En waarom dat misschien niet tegenstrijdig is. Of waarom daar misschien een fout in geslopen is. En dan zal de rechter zeggen, oké, dat volstaat. Ik zal niet vernietigen. Dus dan is het beroep ongegrond. Ja. Dus maar zo dat voorbeeld wat ik net gaf van de fabriek en de vrachtwagens. Van de goederfabriek en de vrachtwagens. Daar was natuurlijk nog meer aan de hand dan alleen maar een motiveringsgebrek. En bovendien miste er ook gewoon iets in de motivering. Dus het was niet zo dat er wel een motivering was, maar niet zo duidelijk of tegenstrijdig of wat ook. Maar er miste gewoon een stuk. En dan gaat het via de bestuurlijke lus terug. Ja.
Is in Nederland geldt dat ook de vereiste dat in principe die motieven in de akte moeten opgenomen staan. Ja. En dat die in principe geen rekening houden met wat er daarnaast helemaal over verteld wordt. Tenzij de rechter dan toch zou kunnen.
Ja, inderdaad, klopt. Ja.
Nos systèmes sont décidément plus proches qu'on ne pense. Je voulais, dans la foulée de ce qui vient d'être dit, est-ce qu'il y a également, dans le contentieux administratif hollandais, ce qu'on constate chez nous, dans le cours du procès, l'autorité administrative elle-même, en lisant la requête ou même avant le rapport aux auditeurs, se rend compte qu'il y a un problème formel, et alors il y a un tracking, comme on dit, un retrait. Yeah. De l'administration elle-même, dans votre schéma de statistique, là, cela se passe souvent, parce que c'est une manière d'éviter la posture de police.
Dat gebeurt vaak. Nou, vaak, dat gebeurt. Dat zie je dan vaak als de procesvertegenwoordiger van het bestuur, dat zijn dan de echte juristen. Die gaan dat dan alles eens doorkijken en die zeggen dan tegen de ambtenaren van ja, maar hier zit een fout in. En dan bestaat de mogelijkheid om het besluit in te trekken of te wijzigen. Bijvoorbeeld om de motivering aan te passen. En dan is de regel dat het beroep wordt geacht mede gericht te zijn tegen het aangepaste besluit. Of het nieuwe besluit als er na de intrekking een nieuw besluit is gekomen. En als het besluit is ingetrokken, maar er komt helemaal geen nieuw besluit, dan is er geen procesbelang meer en dan word je niet ontvankelijk verklaard.
Merci Madame Lemot pour son exposé qui a clairement confirmé ce que Madame Maric avait dit avant elle, à savoir que les contextes juridiques et les cultures juridiques des deux pays sont très différents et que nos parlementaires auraient peut-être eu le fait d'y réfléchir à deux fois avant d'importer dans notre pays l'institution venant d'un système assez différent du nôtre. Mais j'en viens à ma question, qui est de savoir quel peut être l'intérêt de la boucle administrative telle qu'elle a été conçue par le législateur belge dans notre système juridique, dans la mesure, avec toutes les restrictions et les limitations dont Mme Marie nous a parlé. Mis à part peut-être les cas d'incompétence mis en évidence par l'auditeur du Conseil d'État, si on prend les autres vices de forme, parce que Mme Marie, à juste titre, nous a bien rappelé que la boucle administrative ne peut pas avoir pour effet de changer le contenu de l'acte. Donc, ça ne peut être qu'un vice de forme ou d'un vice de procédure. Mais si, au bout du compte, l'effet de la boucle administrative est de maintenir le contenu de l'acte, il faut mettre la boucle administrative en relation avec une autre réforme contenue dans la loi du 20 janvier 2014, dont on n'a pas encore parlé, parce que ce n'était pas le sujet, mais il y a quand même des interactions, c'est que le législateur a importé la jurisprudence française d'Antony, comme on l'appelle, qui permettra au Conseil d'État de déclarer sans intérêt un moyen qui qui invoque un vice de forme ou un vice de procédure qui ne peut pas avoir d'effet sur la solution finale. Alors si l'auditeur met en avant un vice de forme ou de procédure qui pourrait faire l'objet de la procédure administrative, est-ce que ce n'est pas nécessairement un vice de forme ou de procédure qui est sans intérêt pour le requérant? Alors, il ne resterait que les vices d'incompétence. Qu'en pense Madame Marie?
En fait, j'espère obtenir la réponse aujourd'hui à la discussion, parce que c'est ma question par rapport au panachage qui a été opéré dans la loi, c'est qu'on prend des petites solutions d'un système et de l'autre, mais je suppose que ça fait partie du compromis général de la loi, quelque part.
Je vais peut-être apporter un élément de réponse à la question, aux deux questions qui viennent d'être posées. D'abord, les parlementaires on les soupçonne de ne pas avoir suffisamment réfléchi avant de transposer en Belgique un mécanisme importé de Hollande. Il faut quand même savoir que, en amont des travaux parlementaires, il y a eu deux colloques mettant ensemble des juridictions administratives belges, néerlandaises et autres. Il y a d'abord eu un colloque Benelux, qui s'était à Bruxelles, et dont je veux bien les actes n'ont pas connu une très grande diffusion, mais dans lesquels on a pour la première fois évoqué la boucle administrative. Il y a ensuite eu un colloque de toutes les juridictions administratives de l'Union européenne, qui s'est tenu, je crois, début mars 2013 à Bruxelles. Et les actes de ce colloque-là, ils sont disponibles sur le site de l'association des cours des juridictions administratives. Et là, pour avoir participé aux deux, je crois quand même pouvoir dire qu'on a réfléchi au problème que suscitait la transposition d'un ordre juridique pas très différent du nôtre quand même. Hein. C'est pas quand on traverse la Manche, hein, la Hollande, c'est quand même des fois plus voisin. Bon, ça c'était touché. Et la réforme elle-même, telle qu'elle a été déposée au Parlement, a été concoctée en collaboration avec le Conseil d'État, collaboration au cours de laquelle les enseignements des colloques ont été assez largement pris en compte. Alors, sur l'efficacité de la boucle, dans certains cas, et la corrélation avec cette disposition qui est inspirée de. Enfin, que l'on dit inspirée de la jurisprudence française d'Antony. En fait, la jurisprudence française d'Antony, il ne faut pas surestimer le rôle que le Conseil d'État jouait là-dedans. Il était en présence d'une législation française qui disait expressément que des irrégularités ne peuvent conduire à une annulation que si elles ont porté atteinte aux intérêts du requérant. C'est une législation, il l'a appliquée pour simplement. C'est un petit peu ce qu'on a transposé dans un alinéa qu'on a ajouté à l'article 14 des lois coordonnées. Je crois que là, il faudra voir ce que ça devient sur le terrain, parce qu'il y a déjà des cas où des arrêts déclarent qu'un requérant n'a pas intérêt à tel moyen. Ça se trouve. Je crois que l'intention du législateur, c'est d'amplifier le nombre de cas où ça pourra se trouver. Je ne suis pas sûr que tel que le texte est rédigé, il ait une portée autre qu'incantatoire. Une sorte d'incitation à se montrer plus rigoureux dans l'acceptation des moyens. Mais alors, est-ce que ça va priver la boucle des faits? Moi, je pense pas, parce que d'abord, la boucle, c'est de contredire Mme Marie sur ce point-là, je ne crois pas que c'est uniquement pour des irrégularités minimes. C'est pour des irrégularités réparables. Minimes et réparables, ça ne veut pas dire la même chose. Le problème de la compétence de l'acte administratif dans l'enseignement, je crois, constant, est considéré comme une irrégularité d'ordre public, c'est quand même présumé grave. Non, mais il y a des cas, je crois qu'il y en a encore un qui était traité hier au Conseil d'État, où l'incompétence d'un fonctionnaire est parfaitement réparable en soumettant le même dossier avec la même décision à la signature du ministre dans un cas où la délégation n'avait pas été valablement accordée aux fonctionnaires. Donc le critère, c'est pas le que ce soit minime ou pas minime, c'est réparable ou c'est pas réparable. Ouais, c'est ça qui est entrepris principalement. De toute façon, il est là, on pense que des irrégularités réparables, ah, il y a des irrégularités de forme. Et alors, l'autre limitation, c'est en sorte qu'il faut que la décision reprise après la boucle soit la même quand, dans son dispositif, que la première disposition, celle-là, je crois qu'elle pourra donner lieu à des décisions. Il faudra voir comment ça se présentera sur le terrain, parce que quand, au moment où on lance la boucle, c'est avec l'idée que le vice du premier acte pourrait être réparé. Par exemple, parce qu'on a oublié de consulter un organisme. Bien. On lance la boucle, on consulte l'organisme. Si l'organisme consultatif en question donne un avis disant qui est tout à fait dans le sens de la décision qui était prise, il n'y aura pas de problème. La décision sera prise avec un avis de plus que l'autre qui apportera de l'eau au moulin de la décision déjà prise. Si par contre l'organisme donne un avis qui est tout à fait défavorable, il se pourrait que l'administration prenne en compte cet avis et adopte une décision différente. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? C'est que la boucle aurait été lancée, mais n'aura pas abouti. Alors, en termes de procédure, le recours dirigé contre l'acte attaqué aboutira à une annulation. Il y aura un nouvel acte qui sera pris, qui pourrait éventuellement faire l'objet d'un autre recours sur lequel on discutera ultérieurement. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on prévoit que les choses vont se passer. Je vais revenir là pour ne pas te dire trop le crachoir.
Je voudrais juste poser une question. Alors, dans l'hypothèse que vous venez à dévoquer, c'était une question que j'avais sur le mécanisme. C'est, est-ce que lorsque le Conseil d'État va rédiger son arrêt interlocutoire, la manière dont il va rédiger la correction envisagée ne va pas être déterminée, parce que quelque part, l'organe qui va être consulté va déjà savoir quelle est la solution qui devrait être obtenue. Et donc, est-ce que son pouvoir d'information est réellement un pouvoir d'information? Est-ce qu'il va pouvoir vraiment faire son boulot comme il l'aurait dû, ou bien est-ce qu'il va dire, le Conseil d'État a dit voilà ce qu'il faut faire, on sait que le projet est important, qu'est-ce que je peux apporter? Ou bien est-ce que dans certains cas, il ne va pas essayer de se révolter, il va dire tout à fait quelque chose pour montrer l'absurdité ou le problème politique qui se pose? Et alors, est-ce que tout le mécanisme de la boucle administrative ne revient pas à poser la question du pouvoir, des sphères de compétences de chacun des organes impliqués dans la procédure? Et donc, est-ce qu'on a vraiment résolu la question de la finalité et de l'efficacité, surtout si, comme vous venez de dire, on recommence le processus sur une annulation du Conseil d'État? Enfin, je veux bien voir que c'est tout à fait possible ce que vous dites, mais alors je me pose la question sur la rencontre des objectifs de la boucle administrative. Et est-ce que ça peut vouloir dire, si on veut vraiment respecter ces objectifs, sur le pouvoir et les compétences de chacun des organes?
Auquel il faut ajouter la question du temps.
Oui.
Parce que les délais sont très simples. Et pour, si c'est un avis unique et tout, pourquoi pas, mais s'il faut convoquer le requérant pour être entendu par la commission d'avis en question, qu'il ait le temps de préparer son dossier, qu'il y ait peut-être une deuxième instance, que sais-je.
On doit pouvoir prendre ce genre de risque. Alors, peut-être qu'il le veut tout à fait et que c'est quelque chose que le juge souhaite. Avoir la responsabilité, souhaite prendre la responsabilité, mais est-ce qu'il n'a pas aussi envie de dire je ne vais pas prendre cette responsabilité?
Répondre.
Rapidement, parce que mademoiselle a demandé la parole aussi.
Non, mais. J'avais noté, en entendant Isobric tout à l'heure, que vous ne partagez pas vraiment ses craintes ou ses appréhensions quant à la difficulté de rédiger l'arrêt qui lance la boucle. Bon, on sera quand même dans un contexte qui, lui, ne change pas. Il y a une série de moyens qui sont articulés contre un acte administratif. Pour le coup, ça, c'est la boucle. Il faut qu'il y en ait un seul qui soit fondé, et enfin, qui apparaisse, mais qui soit fondé, et qui concerne une irrégularité réparée. Donc, on dira moyen 1 non fondé, moyen 2 non fondé. Ah, il reste au moyen 3, celui-là. Quelque chose qui est théoriquement réparable. on demandera à l'administration est-ce que vous souhaitez le réparer, parce qu'il faut un débat sur la boucle. Si elle dit oui, bon, ben voilà, il y a telle inégalité, maintenant vous avez un délai, 3 mois, prolongeable éventuellement. Alors, pour ces 16 semaines, si je ne me trompe pas, donc un petit peu plus.
Fille, tout 16 semaines.
Bon, d'accord, 3 mois, voilà, vous avez votre délai, à vous de réparer, et produisez-nous dans les 3 mois quelque chose qui vient à place. Alors, est-ce que maintenant, là, si on a un avis consultatif, est-ce que l'autorité va se sentir encore libre? Ça, moi, je ne suis pas dans la peau, évidemment, des autorités en question. À mon avis, toutes les réactions sont possibles. Il y en a très bien qui peuvent se dire, ils ont pris cette décision sans nous consulter, mais nous, on n'est pas d'accord et on va le faire savoir. Bon, ben, ça fera un avis qui va peut-être compromettre la prise de décision finale dans le même sens. Il y en a peut-être qui vont se mettre à plat ventre devant le ministre, mais ils vont savoir ce qu'ils veulent, on va pas leur déplaire. Pour ça, je ne sais pas ce qui va se passer. Là, ça dépend évidemment de partie des compositions de l'organe consultatif en question, de l'indépendance effective. Tant institutionnel que psychologique de ces morts, mais là auquel le domaine du droit, on est dans la sociologie administrative.
Comme tout le monde sera d'accord, on dit que c'est sans doute un peu curieux qu'un organe consultatif émette un avis sur un acte qui a été pris depuis belle lurette et qui fait l'objet d'un contentieux. Hein, c'est quand même un peu.
Oui, mais c'est un acte administratif qui nécessairement donc, est remis en cause, qui reste susceptible d'annulation ou de modification.
Mademoiselle ?
Il me semblait que dans la loi belge, on peut appliquer la boucle administrative que si la réparation n'aura pas d'impact sur le contenu de l'acte. Et donc, la consultation d'un organe a pour but de changer le contenu de l'acte.
Sauf si on se met à plat ventre, pour reprendre l'expression.
Il pourrait y avoir des boucles lancées qui
n'aboutissent
pas. Qui n'aboutissent pas.
On peut considérer que parce qu'il y a cette possible influence,
c'est une condition pour le lancement, pas pour la.
Tout à fait, je rejoins mademoiselle et la question posée par maître madame Maric, parce que c'est une question de responsabilité. Le Conseil d'État, au moment où il veut lancer la boucle, il prend une responsabilité et il part de l'idée qu'il n'y aura pas d'impact sur la décision. Et en disant cela, il prend une responsabilité. Et donc on risque d'avoir demain des actions en responsabilité, non plus contre le juge judiciaire, mais contre le juge administratif.
Qui l'aurait lancé trop vite.
Qui aura lancé trop vite la boucle administrative, ou qui aura présumé que cet avis n'était de toute façon sans influence sur la décision.
Enfin, je ne suis pas
convaincu. C'est une des questions, clairement, qui est controversée. Oui, monsieur.
Ik wil graag nog even de aandacht vestigen op het feit dat we hebben iets gesproken over import van juridische mechanismen in andere landen. Ik wil toch graag nog even de aandacht erop vestigen dat in het Franse recht minder dan 6 maanden geleden een tekst is ingevoegd in de code de urbanisme, waarin een mechanisme wordt geïntroduceerd dat perfect behalve wordt aan de boekadministratieve van Belgisch recht. Minder dan 6 maanden geleden is dat van kracht geworden. De bestuurlijke, de boekelijk, zonder dat in Frankrijk uiteraard die naam gebruikt, die naam hebben ze in Frankrijk niet nodig om het mechanisme te introduceren. En ik wil eraan toevoegen dat het mechanisme van bestuurlijke lust in de steelbouwcontentieus geïntroduceerd is in de Franse rechtspraak door het tribunaal administratief van Amiens in 2005, dus 1 jaar na de rest. Association AC, 1 jaar daarna, heeft het tribunaal administratief dat mechanisme ingevoerd in het steelbouwcontentieus en het wordt sindsdien voortdurend gebruikt. In 2005 is er ook in Frankrijk een literatuur tot stand gekomen over de diverse mechanismen en de zeer talrijke mechanismen die het Franse bestuursrecht kent om vernietigingen te vermijden, om vernietigingen te voorkomen. Die grote schade, die aanzienlijke schade kunnen toebrengen of noodloos schadelijk kunnen zijn door hun terugwerkende kracht, die men probeert de schade te beperken. En er zijn heel wat mechanismen in het Franse recht, in het Franse publiek en het administratief recht, die zeer inspirerend kunnen zijn voor de vragen die zij stellen. Wat mij een beetje verbaast, dat is dat men heeft in Nederland iets ingevoerd bij wet, mechanismen dat ik zeer zeker accepteer, daar gaat het niet over, maar dat men zich niet bewust is dat het in Frankrijk reeds jaren functioneert.
Nee, klopt. Ja, ja. Ja, dat ja, wij kijken niet, als wij iets willen veranderen, kijken we heel vaak naar Duitsland. En daar, ja, daar hebben we dit niet gevonden. Maar wat wel zo is, u noemde dat de tribunaal in Amiens al informeel eigenlijk die lus toepaste.
En met een tussenarrest.
Ja. Nou, en dat, dus de informele bestuurlijke lus, die bestond bij ons al veel langer. Dat dus een rechter op de zitting merkt, hier is iets niet helemaal goed. Bestuursorgaan, wilt u dat nog eens aanpassen met dat, hè, met dat nieuwe besluit of met een aanpassing van het besluit? Want dan zijn we sneller klaar. Ik kan het ook vernietigen als u wilt, maar u kunt misschien zelf het werk doen. En dat, maar daar hadden wij hadden toen niet de mogelijkheid om een tussenuitspraak te doen, formeel. Dus werd de zaak gewoon aangehouden met een vriendelijk verzoek aan het bestuur om een aantal dingen te herstellen. En vervolgens werd dan de zaak weer verder in behandeling genomen. Dus informeel bestond dat mechanisme al wel. En dat is eigenlijk de aanjager geweest of de reden geweest om dat formeel ook in te gaan voeren.
Et ce que vous dites l'un et l'autre n'est possible que parce que, aussi bien en France qu'aux Pays-Bas, le juge administratif a plus qu'une simple compétence d'excès de pouvoir. Il a la compétence de statuer sur les droits subjectifs. Et alors, évidemment, comme le juge judiciaire chez nous, il peut adopter des jugements interlocutoires et commencer à dialoguer avec les parties. Vous l'avez dit vous-même, c'est un contentieux entre parties dans votre pays. Tandis que chez nous, ça reste un contentieux à un acte.
Même si là aussi il y a eu des changements, hein, dernièrement, c'est après-demain ça. Ça fait l'objet d'une autre, d'une autre conférence.
Ja, maar in Nederland is nog steeds ook staat het besluit centraal. Dus je moet een beroep instellen tegen het besluit. Maar wat daarna gebeurt, wordt dan gezien als een partijengeschil. Maar de uitspraakbevoegdheden van de rechter zijn nog heel erg vormgegeven als een recours pour excès de pouvoir, dus als een vernietigingsberoep. Maar er is wat bijgekomen, er zijn wat meer mogelijkheden bijgekomen. Maar ook daar zijn we over aan het nadenken om dat meer naar het Franse model toe te brengen. Daar kijken we wel naar Frankrijk. Ja.
Monsieur?
Dans votre esprit, quel serait le dommage que le requérant aurait subi et qu'il pourrait faire valoir?
Un cas n'est pas un autre. Et dans le cas que j'évoquais de l'avis qui aurait été suggéré par le Conseil d'État et qui aurait influencé l'avis de l'organe consultatif qui n'avait pas été consulté au départ. Sous l'influence de l'arrêt du Conseil d'État, ben, l'organe consultatif, pour reprendre l'expression, se serait aplati de façon à permettre la régularisation de l'acte. Le requérant pourrait invoquer qu'en définitive, si on avait initialement consulté l'organe consultatif, la décision aurait été différente. S'il s'agit d'une révocation disciplinaire, ça peut quand même être un dommage fort important.
Et en tout cas, elle a perdu une chance, hein, me semble-t-il.
Oui, absolument.
Et un avis in tempore, suspecto ou non suspecto, c'est quand même pas la même chose. Hein. Je suis d'accord avec Monsieur Lagasse.
Ce que j'ai évoqué n'est pas abstrait dans la mesure où on a connu quand même quelques cas, au moins un en tous les cas, où le Conseil d'État, enfin l'État belge, mais c'était à travers lui l'Assemblée générale du Conseil d'État, a été sanctionné par le juge judiciaire. Parce que l'Assemblée générale du Conseil d'État avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la présentation d'un candidat à une nomination de Conseil d'État.
Il n'y a que les gens qui ne font rien et qui ne font jamais d'erreur.
C'est cela dit, je peux dire quand même quelque chose. La situation n'est pas différente actuellement. Quand il y a une annulation qui est prononcée pour n'avoir pas pris un avis, que l'administration remet la procédure en branle, consulte l'organe en question. Hein? Oui, consulte l'organe en question, lequel sait déjà dans quel sens une première décision est prise. Alors, c'est plus la même, d'accord. Enfin, la situation de fait est quand même très voisine.
Je sais que c'est un changement politique entre-temps ou pas.
Ah oui, bien sûr.
Oui, et donc, votre unité, notamment...
Oui.
Pas, le ministre peut changer.
S'il y a des élections,
le ministre peut changer.
Oui, mais il faut faire que du coup, le l'écoulement du temps a une influence.
Il y a quelque chose, une parenthèse, qui est un peu déplaisant dans tout ça, c'est qu'on a tendance à dire qu'un moyen pris d'une violation d'une formalité substantielle devient un moyen, de toute façon, ils n'ont qu'à refaire ça comme ils veulent. Je me souviens, moi, de mon professeur de contentieux administratif qui me disait qu'une formalité substantielle, ce n'était pas quelque chose d'accessoire et que ça peut changer beaucoup de choses dans un dossier. Hein. Mais bon, autre temps. Vous en prie.
Les moyens. À partir du moment où on propose une boucle, tous les moyens ont été examinés. Si un des moyens de fond est considéré comme fondé déjà, je suppose qu'on ne va pas mettre en œuvre la boucle administrative. Et donc, on a déjà attiré connaissance pratiquement de la décision de fond. C'est vraiment une boucle qui est mise en œuvre uniquement pour que tout soit bien formalisé, mais on connaît déjà au niveau du fond la prise de position, en tout cas,
je crois que sur ce plan-là, tout le monde est d'accord, sous réserve de la violation ou le vice de forme pourrait entraîner un réexamen solide du dossier si l'instance consultative, comme on l'a dit, venait à exprimer un avis peut-être un peu différent de celui qui a été retenu par le ministre. Donc, vous avez raison, hein, j'imagine que c'est un checking de tous les moyens de fond avant, parce que sinon ça ne sert à rien, non, c'est la boucle évidemment. Et donc l'arrêt interlocutoire se prononcera sur tous les moyens autres, sauf erreur de ma part. Ça, je crois que sur ce plan-là, tout le monde est d'accord. Hein. Reste peut-être que le dernier moyen qui aurait conduit à l'annulation jusqu'à 2014, selon toute vraisemblance, pourrait à partir de 2014 entraîner l'application de ce système et finalement aboutir à un arrêt de rejet. Alors que dans le temps d'avant, je ne sais pas si je m'exprime bien, elle entraînerait une annulation avec une obligation pour l'autorité administrative de restatuer, avec peut-être un ministre qui a changé, une instance consultative qui ne sera pas mise quand même sous la même pression, me semble-t-il, que si une procédure est encore en cours. Ça, je crois qu'il y a quand même une différence. On est en train de parler au conditionnel. Hein. Voilà. Est-ce que quelqu'un... Oui, je vous en prie.
Oui, peut-être juste une petite remarque par rapport aux critères du vice réparable. Donc c'est le critère c'est le vice réparable et pas le vice minime. Mais étant donné que le contenu de la décision ne peut pas changer suite à l'application de la boucle administrative, est-ce que dans un premier temps, on va d'abord avoir des boucles administratives qui vont être lancées, puis interrompues quand le vice ne sera pas réparable? Est-ce que le fait que le contenu ne peut pas changer, ça ne va pas engendrer la pratique qu'au final, ce ne seront que des vices minimes qui pourront être réparés et que peut-être qu'au début, on lancera des boucles administratives qui seront interrompues, mais que la pratique fera qu'au final, la boucle administrative ne sera que très peu appliquée parce que pour des vices minimes. Et donc, son efficacité, sa finalité est tout à fait ridicule, voire nulle, et que d'autres instruments peuvent être substitués à la boucle administrative de façon très aisément, comme par exemple la théorie du retrait qui est fortement appliquée par les avocats quand ils
statistiquement, sous réserve de contrôle de gens qui sont peut-être mieux informés que moi, statistiquement, il y a énormément d'arrêts qui se limitent aujourd'hui à constater que le recours a perdu son objet parce que l'acte retiré, ce qui est une forme de boucle intelligente, hein, d'une certaine manière. Il y en a beaucoup, hein, je crois, ça vraiment, on est bien d'accord, je crois que ça a été chiffré dans les rapports d'activité du Conseil d'État à l'époque où ils étaient remis, il y en a beaucoup. Maintenant, la question de l'application, au début, comme toute nouveauté, j'imagine que la boucle va avoir besoin d'un temps de rodage, hein, pour reprendre ce que vous aviez dit également, ça c'est un peu normal. Mais je ne suis pas persuadé qu'il y ait aussi peu d'arrêts avec des vices réparables dans notre contentieux. Hein. Enfin, dans notre pratique d'avocat, pour les avocats qui sont ici, je crois qu'il y a quand même de multiples dossiers où, tant pour le requérant que pour la partie adverse, où des questions de ce type-là, réparables par hypothèse, se posent. C'est pas du tout une si infime minorité. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite. On m'a toujours dit, et c'est peut-être un mot que j'adresse à tous les étudiants qui sont venus, que pour qu'une réforme, c'était le président Sarraud qui un jour m'a dit ça à l'issue d'un colloque, que pour qu'une réforme fondamentale, évidemment vraiment une nouveauté, changeant complètement les habitudes des praticiens, s'implant durablement dans le droit, temps d'acclimatation, au moins 5 ans. Vous savez pourquoi ? Parce que les études de droit font 5 ans. Et que vous allez être privilégiés, soit dit en passant. Vous allez tout juste être les premiers qui avaient entendu parler de cette nouveauté au sein de cette institution universitaire. À partir de l'année prochaine, les cours de droit administratif et de contentieux administratif vont, vous l'avez bien compris, solidement changer hein, sur plusieurs points. Sans envisager le sujet de la conférence après-demain sur le pouvoir indemnitaire du Conseil d'État, qui est une révolution. Sur ce plan-là, tous ceux qui sont sortis de cette université l'année passée, par exemple, et qui doivent déjà apprendre à domestiquer toutes ces notions dans la pratique, vont en plus se rendre compte que leur formation qu'ils ont apprise ici est complètement périmée. Voilà, M. Sarraud disait 5 ans, au moins. Bon avenir à tous. Je crois qu'on peut vraiment, réellement remercier nos deux conférencières pour la soirée. Et donc, vous avez un troisième sujet sur l'indemnité réparatrice qui nous attend vendredi, je crois. Je fais de publicité. C'est Dominique Lagasse qui présidera cette conférence dans un autre local. Hein. Voilà, c'est annoncé sur le site du Centre de droit public pour tous ceux qui intéressent. Voilà, bonne soirée à tous.